Yes, go. Hello Jack.
Hello.
Ouais, donc, du coup, c'est cool de t'avoir en vidéo. Donc, si je te rappelle un peu l'intention pour poser un peu les choses, c'est que du coup, on a pas mal échangé sur les sujets autour de la complexité, de la systémie, mais par manière très pointilleuse sur LinkedIn. On n'avait jamais fait ce temps de commun d'échange. Et pour moi, je trouve que c'est très enrichissant de pouvoir croiser un peu les regards et puis les expériences de chacun sur ce sujet-là. C'est pour ça que du coup, j'essaye d'avoir ces discussions avec les gens qui sont dans le milieu et en même temps de les enregistrer pour pouvoir les partager aussi, parce que c'est dans les fils de conversation des fois qu'on en apprend beaucoup, je trouve. Et surtout aussi parce que humblement, je considère pas que je fais partie de ceux qui sont allés chercher le plus en profondeur dans la systémie. Donc, du coup, ça me permet aussi de continuer à explorer, d'en apprendre et puis de pouvoir voilà creuser à plusieurs quoi, de pair à pair, c'est toujours plus efficace. Et du coup, juste pour continuer à poser le contexte, si toi tu peux me partager un petit peu. Des briques de ton background ou de qu'est-ce qui t'a peut-être amené justement à ces sujets de la systémie et de la complexité? Je crois que je te l'ai jamais demandé en plus, donc les cheminements de vie, c'est intéressant.
Ouais, moi j'ai une formation de base scientifique et technique puisque j'ai fait deux écoles d'ingé et un troisième cycle d'acoustique, un DEA au Mans. Et donc dans mes écoles d'ingé, aussi bien la première que la deuxième, on a travaillé beaucoup de cybernétique avec des systèmes bouclés, hein, des circuits d'asservissement avec des stabilités, des choses comme ça. Donc l'approche d'avoir un système complet et même quand on fait une conception mécanique, l'approche systémique de première génération, comme je dirais, c'est quelque chose qui fait partie de beaucoup de gens qui sont en école d'ingénieur, plutôt mécanique, électricité, électronique, tu vois. C'est sûr que si tu fais une formation d'ingénieur même si tu as des bouclages aussi, mais les gens dans du soft, tu as moins cette notion de bouclage, quoi. Tout appareil mécanique, tu conçois une voiture, c'est un système, toi. Au niveau mécanique, donc ça, c'est déjà quelque chose de très clair. Ensuite, cette pensée systémique à la Morin, moi, je l'ai en fait depuis les années 75 à peu près. Donc, de penser globe, enfin, justement, une des erreurs, c'est de confusion, c'est que systémique, c'est différent de global. Tu peux penser global sans penser systémique. Tu vois, et c'est souvent une des erreurs qui est faite. Voilà, pour moi, la pensée complexe, la pensée systémique, la meilleure métaphore que j'ai pu trouver, c'est pas toujours facile, c'est pour les gens qui ont vu le film Matrix, à la fin du premier, le personnage Neo, il voit en même temps les trois agents dans leur forme, plus dans la matrice qui est verte. Donc il voit les deux. Il voit la représentante de la chose et la chose en même temps. D'accord? Donc c'est une vision. Quelqu'un qui a une pensée réellement naturellement systémique, c'est quelqu'un qui voit les relations naturellement. Et une des personnes que j'ai vues comme ça sur une interview, c'est, j'ai plus son prénom, Bancel, qui est le patron de Moderna. Sur une des interviews, il expliquait qu'il était avec un de ses chercheurs et il a eu tout de suite une relation entre deux éléments, d'accord? Et il lui a dit, bah, entre ça et ça, il y a une relation. Il l'a vu comme ça sur un claquement de doigts, ça lui a sauté aux yeux comme ça. Et le chercheur a mis 3 jours à trouver effectivement la relation, tu vois? Alors que lui, il l'a vu intuitivement, directement. Donc cette capacité de penser complexe et systémique, de voir les relations naturellement sans aller faire une analyse. Donc après, c'est un peu comme l'agilité, hein. L'agilité, c'est un état d'être, de mental, de mindset, où les gens sont naturellement agiles. Et après, ça commence à être codifié. Puis après, on refait du benchmarking et du copier-coller. Et on va chercher à imposer des comportements à des gens qui n'ont pas forcément le mindset, la mentalité pour être agile. Ce qui fait les difficultés et d'ailleurs les freins et les résistances qu'on peut trouver dès qu'on fait du changement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une chose très, très naturelle de voir les relations.
Et là, du coup, par rapport à ce que tu disais sur des points qu'on a déjà eu sur des commentaires, cette différence entre cette systémie 1.0, comme tu l'appelles, qui,
Ouais.
de ce que je comprends, est une systémie vraiment très rationnelle, réfléchie, analysée, et puis
Et
après
une
d'autres formes
utilisation
de systémie plus intuitives.
Bah, la 1.0, moi, j'étais formé à ça par deux formateurs il y a 13 ans, 2010. L'un s'appelle François Balta, l'autre s'appelle Jacques-Antoine Malarevitch, qui sont tous les deux des psychiatres. Et en fait, la première approche systémique un peu humaine, c'est l'école de Palo Alto. C'est dans les années 70. Et avec cette approche qui était l'approche thérapeutique. C'est-à-dire que l'approche d'un thérapeute, c'est de dire mon client ou en thérapie, mon patient, je ne peux pas le changer. D'accord? Par contre, ils se sont rendus compte qu'il y avait une circularité systémique, c'est-à-dire que mon comportement influence, comme nous en ce moment, mon comportement va influencer le tien, et en retour, le tien va influencer le mien, et on a en permanence cette circularité systémique entre ton comportement et toi et moi. D'accord? Si je commence à t'insulter, ton comportement va changer. Et ton comportement changeant, il va rien influencer. Et on voit souvent quand les gens sont en train d'être, même dans les équipes, quand ça commence à être tendu ou chaud, souvent ça fait des cercles dits vicieux où les choses s'aggravent par circularité systémique. Donc l'approche à ce moment-là thérapeutique, c'est de dire, le thérapeute dit comment je me change moi pour amener l'autre à changer. D'accord? Donc ça commence à regarder par soi. Donc après, quand on est thérapeute en one-to-one, une personne, ben ça va très bien. Si éventuellement on est thérapeute familial, on a les parents plus éventuellement un ou deux enfants, on a encore un plus trois ou quatre, ça marche aussi. Si on veut transformer, il y a des gens qui le font en systémique, une organisation de 100 000 personnes, même si on est 10 ou 20 consultants et coachs, c'est 20 personnes contre 100 000, quoi. Donc les rapports d'échange sont pas du tout au même niveau quand on est une personne contre une personne ou une pour trois, quoi. Donc la systémique 1.0, déjà il y a ce côté-là, puis ensuite il y a un côté très, même quand je vois passer, c'est la systémique 1.0, c'est très mécaniste, très cybernétique. On envisage le système comme une approche mécanique. Avec ce qu'on appelle les fonctions de transfert, là c'est direct, là c'est linéaire, là éventuellement c'est non linéaire, il y a des boucles négatives, des boucles positives. Donc on essaye de caler un modèle. Alors, quand le système est simple ou voire compliqué, avec du temps d'analyse, on arrive à faire ça. Quand c'est vraiment complexe, par définition, le vrai complexe, c'est tellement complexe qu'on n'arrive plus à le modéliser. Donc cette modélisation ne marche plus pour des systèmes vraiment très complexes. Alors quand on modélise, on cherche à modéliser ou une partie compliquée, ou une partie qu'on est capable de voir, mais tout, c'est plus possible, quoi. Donc on rejoint ce que disait Korzybski dans les années 30 avec la sémantique générale. La carte n'est pas le territoire, et deux, aucune carte ne décrit complètement le territoire.
Et pour faire la jointure avec le design systémique, enfin en tout cas comme certains l'appellent, et ce sur quoi moi pendant un moment où je me suis pas mal raccroché, c'est cette utilité de pouvoir modéliser le système, ou du moins justement une carte du système, en précisant bien que dans tous les cas ça sera pas à l'exactitude et ça sera juste à un instant T, mais dans l'idée que il vaut quand même mieux avoir une visualisation par rapport à un certain travail qu'on a envie de faire sur l'organisation plutôt que de rien avoir du tout comme beaucoup d'organisations. J'avais l'impression que c'était une des étapes en fait pour commencer à rentrer et faciliter aux gens ces connexions, un peu comme le font de manière encore plus simple les fresques, qui sont un pas parmi tant d'autres pour réussir à rentrer dans une approche systémique plus profonde, quoi. Toi, tu en penses quoi de cette étape? Est-ce que ça fonctionnerait par étape de pouvoir ouvrir à la systémie et une approche plus complexe ou...
Non, parce qu'en fait, la systémique 2.0 est nettement plus simple. Je t'expliquerai pourquoi après. En fait, c'est une approche justement qui reste encore... je ne sais pas si tu connais la spirale dynamique.
Ouais, le modèle. On avait parlé un petit peu aussi sur
le chat. On est dans l'orange où on cherchait à simplifier les choses et entre autres, les linéariser, ça simplifie les choses. D'accord? Quelque chose de non linéaire, c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Quand c'est linéaire, ça simplifie les calculs matriciels dans les calculs qu'on peut modéliser, ainsi de suite. Donc l'ingénieur et les scientifiques ont simplifié les choses sur des petites variations. Quelque chose qui n'est pas linéaire devient linéaire sur un petit bougeant. Donc ça simplifie fortement les calculs et les approximations. Et moi, je dis toujours en stats, les statistiques, c'est la science de l'ignorance. Entre connaître la fonction de transfert, l'équation exacte et rien, une approche statistique, ça donne déjà quelque chose par rapport à rien. Donc ça, c'est quelque chose que je prenais à un moment, et c'est tout à fait valide, hein, cette approche-là. Mais ça peut faire des loupés, et ça reste dans l'analyse. Donc, la systémique 1.0, donc après des systèmes très complexes, on voit des trucs avec des fresques énormes, avec des relations qui vont partout, et même analytiquement, on peut plus le suivre. Éventuellement par informatique, pourquoi pas, avec des outils comme ça.
Ce que j'allais dire, ou même du coup des espèces de grandes, que moi je considère aussi un peu comme une course effrénée vers quelque chose d'impossible, mais c'est d'arriver à capter la data de tout et puis de la modéliser en temps réel et puis de la projeter dans des environnements en 3D comme certains font pour pouvoir réussir à voir exactement le système dans son ensemble. J'ai l'impression que ça, c'est un peu une course du rationnel qui essaye de tout contrôler et qui...
Absolument. Absolument, il y a donc une vision très orange où on cherche à maîtriser les choses, à les comprendre, et ça part du présupposé que pour agir dessus, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Je vais te faire la démonstration scientifique que c'est faux, que c'est un biais cognitif. Je présuppose que tu seras d'accord avec l'affirmation que de dire que toi et moi sommes des systèmes complexes. Hein, même auto-adaptatif. Hein, d'accord, l'être humain, j'aime bien cette définition, est un système auto-adaptatif complexe. Donc, toi, tu as un système extrêmement complexe, moi aussi. On n'est pas obligé d'avoir un doctorat en médecine plus un doctorat en psychologie et de savoir comment fonctionne l'autre pour que nous puissions échanger. D'accord ? Même si je ne connais rien en biologie, dans le truc, on peut dialoguer ensemble, c'est ce qu'on fait.
Ouais.
D'accord ? Donc, de système à système, nous pouvons dialoguer sans forcément, de boîte noire à boîte noire, si tu veux. On n'est pas obligé de savoir ce qu'il y a dans la boîte noire.
Ouais.
Et ce que j'appelle justement systémique 2.0, c'est qu'on va dialoguer avec un système sans avoir besoin de savoir ce qu'il y a dedans, d'accord ? Et en dialoguant, on peut lui demander de quoi tu as besoin, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui est bon pour toi, voilà. Comme un être humain, voilà, c'est dans ton boulot, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu veux améliorer, ainsi de suite. Donc on est vraiment sur un saut paradigmatique très très différent, c'est-à-dire que moi je suis pas obligé de savoir ce qu'il y a dans les systèmes, est-ce qu'il est linéaire ou pas linéaire, je m'en fiche, mais royalement, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est simplement d'émanciper le système, parce que les systèmes, ce que j'appelle système à grand S, parce que souvent, moi, je fais une distinction entre système petit S et grand S. Un système avec un petit S, c'est effectivement un système mécaniste, avec des engrenages, des choses comme ça, ou un système politique, ou un système financier. C'est plutôt un ensemble de protocoles et de procédures. Donc les petits systèmes sont plutôt dans des processus, choses comme ça. Un système à K grand S, ça inclut au minimum des êtres humains. D'accord ? Et dans cet être humain, ce système, ce groupe, ce collectif à K grand C également, la somme est supérieure et différente de la somme des parties. Comme nous, notre corps, il est bien supérieur de la somme de nos composants. Hein, si on prenait un foie, un cœur, chacun dans son coin, c'est pas la même chose que les avoir mis ensemble dans un corps humain. D'accord ? Je te vois sourire. C'est plutôt évident. Donc, dans une entreprise, par exemple, une organisation qui est une entreprise, je vais refaire une autre métaphore aussi sur le système. C'est pas évident de trouver des métaphores qui marchent pour les systèmes, mais une des nouveau, elle ne me satisfait pas, mais c'est la mieux que j'ai trouvée. Donc, si tu as mieux, moi, je prends. Pour un système, une organisation, c'est un aquarium. D'accord ? Avec l'aquarium physique, hein, donc les parois transparentes, les ossatures métalliques ou pas, ainsi de suite, qui se tiennent. D'accord ? Donc, ça, c'est l'organisation. Et à l'intérieur de cette organisation, il y a des êtres humains que je mets sous forme de poissons. D'accord ? Donc, en entreprise, il y a un poisson, PDG, un CEO, des directeurs généraux, des managers intermédiaires. Tout ce monde-là, tous ces poissons-là naviguent dans le système qui, pour moi, est l'eau. C'est le plus proche. D'accord ? Tous les poissons baignent dans ce système-là. D'accord ? Et donc, entre autres, dans l'eau, on retrouve la culture dans laquelle baignent tous les poissons. Okay ? Et si maintenant, je me retrouve avec un aquarium avec de l'eau saumâtre et trouble, bah, elle est trouble pour tous les poissons. Donc, si par un certain travail, je permets au système de devenir plus clair, plus transparent en faisant ce que j'appelle un alignement organisationnel, d'accord, donc de faire émerger de l'eau et pas des poissons, parce qu'à ce moment-là, en approche systémique, le client, c'est le système, c'est l'eau, plus des poissons. Ça veut pas dire que tu te fiches complètement des poissons, mais si tu t'occupes bien de l'eau, et on va le voir, bah, les poissons vont en tirer profit. Donc, si dans cet aquarium-là, je filtre l'eau, bah, tous les poissons vont y voir plus clair, du PDG jusque tout, ainsi de suite. Ensuite, s'il y a de l'eau saumâtre, si la majorité des poissons est de l'eau douce, le système va vouloir aller d'eau saumâtre vers de l'eau douce. Donc, si l'eau à l'intérieur de l'aquarium va devenir de l'eau douce, les poissons d'eau douce vont être nettement plus performants que dans de l'eau saumâtre, d'accord? Et donc, le système, les poissons vont mieux fonctionner. Et par contre, les poissons d'eau de mer, dans l'eau saumâtre, c'était acceptable, mais ils vont se retrouver dans de l'eau douce, ça sera insupportable. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces poissons-là? Ils vont changer d'aquarium, ils vont trouver un aquarium où il y a de l'eau de mer. Tu vois? Et donc, tout le monde va être gagnant, 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 c'est-à-dire que le système va mieux fonctionner, les poissons vont mieux fonctionner, ainsi de suite. Et ils vont être mieux dans leur aquarium. Tu vois? Donc, même dans une approche QVT, il y aura un meilleur fonctionnement au niveau des poissons. Donc ça c'est la meilleure métaphore actuellement que j'ai pu trouver par rapport à ce qu'est un système. Donc pour revenir à Systémique 2.0, c'est que l'idée c'est de dialoguer avec l'eau, d'accord.
Comment est-ce qu'on dialogue avec de l'eau?
parce que déjà en plus les systèmes avec un grand S sont dominés par les systèmes avec un petit S. Les systèmes de contrôle, bah, une entreprise, qui est-ce qui commande? C'est la direction générale. D'accord? Et une entreprise, d'ailleurs, en France, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on appelle une entreprise? C'est quoi le mot juridique qui définit une entreprise?
C'est une organisation?
Non, c'est personne morale.
C'est personne morale. Ouais.
D'accord? Donc, une personne, déjà, c'est intéressant. Et donc, une personne morale. Mais comme le système avec un grand S n'est pas opérationnel, c'est comme un petit bébé, c'est les parents qui décident. C'est les tuteurs. Donc, dans une société, on a les mandataires sociaux qui sont les tuteurs de l'entreprise, qui est une personne morale, comme quelqu'un qui serait handicapé profond, ainsi de suite, ou un petit enfant, quoi, un mois, deux mois, trois mois. Voilà. Donc, il y a les parents qui en sont responsables. Et donc, dans des entreprises, ou même les grandes organisations, ou les États, on voit très bien en France, c'est le gouvernement qui décide, voilà. Et le système Grand S français, il est très petit. Donc, l'idée, c'est que tant que le système Grand S n'est pas émancipé, il va pas pouvoir agir. Donc, comment est-ce qu'on va émanciper un système comme ça? Bon, on va lui donner de la data, lui donner, comme un être humain, et lui augmenter son niveau de conscience. Et à partir du moment où on l'a émancipé, voire rendu autonome, à ce moment-là, on va pouvoir dialoguer avec lui. Hein, donc, ça se fait avec un collectif, effectivement, qui va le représenter. Et il y a différentes façons, effectivement, de dialoguer avec lui, mais on va pouvoir commencer à lui poser des questions, et il nous répond, ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, et parce qu'il est émancipé. Ça se fait naturellement pour un être humain quand il grandit, mais on lui donne de la data aussi. La donnée, il va à l'école, il apprend des choses, il lit des choses, et l'évolution de sa conscience fait un peu automatiquement, entre autres, ne serait-ce que par son cerveau qui se développe et ce nombre de synapses qui se développent aussi, hein, pas que ça, et puis éventuellement son environnement éducationnel, ainsi de suite, qui lui augmente son niveau de conscience, pour arriver jusqu'à un adulte qui a suffisamment de données factuelles et suffisamment de conscience pour pouvoir diriger sa vie, quoi.
Est-ce qu'on pourrait considérer que beaucoup d'organisations qui sont un peu à la course à la data depuis plusieurs années sont en fait dans un processus de captation de data et d'informations pour justement inconsciemment ou consciemment rentrer dans cette évolution pour ensuite être prêt à pouvoir passer par le processus d'émancipation?
C'est pas le système qui a les data, c'est les ordinateurs.
Oui.
Là, le système, le point d'entrée des systèmes, c'est quand même les individus. Hein. On n'a pas de système humain sans humain. D'accord?
Ouais.
Donc, le point d'entrée du système grand S, c'est les individus. Si l'information est dans l'ordinateur, c'est le petit système qui a les data, pas le grand. Tu vois?
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on fait rentrer de l'info. De ce que je comprends, quand on rentre en discussion avec le système, tu disais, l'une des premières étapes, c'est d'être en interaction avec, avec des individus, leur donner de la data. Donc, c'est un humain qui vient donner de la data à un autre humain. Oui, au système, à travers l'humain.
À travers l'humain, absolument.
Voilà, c'est ça. Et est-ce que, du coup, des humains qui construisent un système numérique qui va permettre de faire remonter de la donnée à certains humains, à travers certains humains dans l'organisation, sont pas en train de construire un moyen pour pouvoir faire entrer de la data dans le système avec un grand S?
Tel qu'on le fait, c'est qu'il faut que la data soit accessible à tous les humains.
Ça suffit pas qu'elle soit accessible jusqu'à certains?
Je sais pas. Je me suis jamais posé cette question-là. Tout dépend quel pourcentage de gens. Moi, quand on travaille avec un groupe de 10, 15, 20 personnes, c'est quand quelqu'un nourrit le système, il parle et tout le monde l'entend, tu vois.
Donc là, du coup, t'as une typologie particulière d'humain, du système avec lesquels il faut être en interaction pour que ça puisse circuler dans le système, l'information?
Non, parce que c'est vraiment un choix stratégique quasiment de la direction. Stratégique ou conceptuel. C'est-à-dire que avec l'eau de l'aquarium, tu te rends compte que tous les poissons sont dans la même eau. D'accord? Donc nous, quand on travaille avec le système, si on va analyser l'eau, c'est qu'on met une pipette, on prend un échantillon et puis après on l'analyse. Donc l'idée, c'est d'analyser l'eau. Alors, tu pourras me dire éventuellement, les poissons sont un peu en contact avec l'eau, le système. Mais c'est moins conscient de dire, OK, faire la différence entre moi, le poisson, l'individu, la personne et puis le système. La plupart des gens ne sont pas entraînés à distinguer les deux. Toi. Donc c'est pour ça qu'en travaillant en collectif, ça aide déjà. Et j'ai perdu le fil. Donc la stratégie, c'est tu peux dire dans une entreprise, il y a des gens qui vont dire non, mais tout ça doit se travailler qu'au niveau, par exemple, du CODIR ou du COMEX. À ce moment-là, le capteur va être ces gens-là. Ou il y a des gens qui vont dire non, c'est important qu'il y ait un peu des gens de tous les niveaux. Hein, aussi bien du COMEX, des managers intermédiaires, des managers en proximité, des gens qui travaillent, des gens des syndicats, et des hommes, des femmes, ainsi de suite, d'avoir un mix qui soit un peu, entre guillemets, même représentatif des gens et des individus. Dans les deux cas, on aura quasiment le même sujet, puisque l'eau, c'est la même.
Ouais, je vois.
Mais donc, c'est en termes de communication interne, de dire est-ce qu'on prend c'est le COMEX qui va mesurer ou c'est un échantillon réparti sur l'ensemble.
D'accord, tu parles vraiment du point en fait, du système, c'est-à-dire d'un point de vue culturel, si le système, en fait, c'est le système qui décide, quoi. Le système il décide que ça doit être contrôlé par un CODIR ou que ça doit être réparti dans l'organisation, c'est lui qui choisit, quoi.
C'est le petit système qui décide.
C'est ce que j'allais dire, voilà.
Tout à fait. Après, une fois que le grand système a pris l'émancipation, lui va pouvoir prendre le relais. Et nous, en tant que dirigeants, on va être au service de ce système-là. On va les aider. Comme les parents, à un moment, quand les enfants ont grandi, ils vont les aider. Ils vont un peu les soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Dans le même état d'esprit. Et donc, après, ce qu'il faut, une fois que le système a été défini, on a besoin que ce petit groupe de travail communique à l'ensemble du système. Moi, ça m'est arrivé il y a maintenant 5-6 ans de travailler avec une entreprise qui voulait fusionner. Et donc, on a fait un travail d'alignement organisationnel de la nouvelle entité. Et ils étaient une cinquantaine de personnes. Ils travaillaient entre autres dans de l'agilité, du développement informatique. Et donc, deux entités, on ne voulait fait qu'une. Et après, tout le travail qu'on a fait émerger du système, ils l'ont communiqué dans l'entreprise, à tout le monde. Et cet alignement, il y a, sur une cinquantaine de personnes, le dirigeant, quelques mois plus tard, m'a dit il y a eu deux, trois personnes qui sont parties naturellement. Donc deux, trois poissons pour qui l'eau n'était plus appropriée. Et les gens sont partis comme ça, sans heurts, sans soucis, parce qu'ils ne se sentaient plus alignés avec l'entreprise.
Et quand tu fais de l'alignement organisationnel avec les groupes, c'est quoi comme qualité d'information qui du coup va émerger et qui ensuite doit être transmise au reste de l'organisation?
Il y a tout un travail. On fait émerger du système. C'est quoi la vision? Hein, donc la vision, c'est un monde où quelque chose existe. C'est quoi la raison d'être? C'est quoi les valeurs?
D'accord,
c'est quoi l'ambition? C'est quoi la mission? Donc la raison d'être va nourrir la vision et la mission va nourrir l'ambition. C'est quoi le rôle? Donc avec ces six piliers déjà, on va aligner l'organisation sur ça et ça va forcément bien passer puisque si c'est un travail de vision, raison d'être, penser intellectuellement juste avec la direction, c'est quelque chose qui peut être biaisé, entre autres par des approches. Il y a un stagiaire d'une école de commerce qui va faire ça, on va biaiser. Les valeurs, ça serait bien d'avoir ça et ça et ça. Donc, on n'est plus en train de faire émerger les valeurs du système, mais des choses qu'on aimerait, parce qu'on estime qu'à un point de vue marketing, c'est bien d'avoir ces valeurs-là, ou c'est bien d'avoir cette raison. Tu vois. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, souvent, les gens parlent de vision partagée. Comme on fait émerger la vision dans ce cas-là de l'eau, du système, elle est forcément partagée, puisque tous les poissons vivent dans la même eau. D'accord? Mais une fois que ça a été émergé, il y a besoin de la communiquer dans les autres poissons. Et à ce moment-là, waouh, effectivement.
Parce que j'imagine que quand on communique, en plus de ça, ça crée aussi du feedback et ça vient un petit peu y travailler pour qu'on ait vraiment la vraie information de ce qui est vraiment l'eau que les poissons ont envie de partager, quoi.
Ouais. Et donc, on révèle une partie de l'eau. Et donc, les gens sont dans un système. Inconsciemment, puis là on rend conscient le système à tout le monde. Et donc ce qui d'un certain point de vue rassure aussi, je savais que j'étais bien ici, mais ça, maintenant je comprends pourquoi. Tu vois, il y a une évidence qui surgit, et puis les gens qui sont pas bien, ils vont trouver une autre entreprise, une autre organisation où ils vont se sentir à l'aise.
Et comme mode opératoire, du coup, ça se passe sur de la discussion. Ça reste vraiment sur du langage parlé, ou est-ce qu'il y a d'autres types de...
Non, on travaille sur... L'idée, c'est de faire travailler les trois centres d'intelligence, la tête, le cœur et les tripes, le corps. Tu sais, on appelle ça maintenant, certains appellent ça le deuxième cerveau, les 200 millions de neurones dans les intestins. Et donc, l'idée, c'est de faire travailler au niveau des personnes déjà l'intégralité des trois centres d'intelligence qui recoupent un peu d'une façon différente les intelligences multiples de Gardner, je sais pas si tu connais, ouais. Hein, qui a travaillé. Donc, en fait, je voulais commencer à regarder. En fait, il y a des intelligences qui viennent plutôt de la tête, d'autres qui viennent plutôt du corps, du relationnel, et d'autres qui viennent plutôt des tripes et de l'instinctif. Et voilà. Déjà au niveau des individus, on travaille comme ça. Et l'idée, c'est de travailler, de communiquer sur les trois axes. C'est-à-dire que quand les gens vont transmettre une data, on va essayer dans beaucoup de cas d'avoir du verbal, d'avoir une métaphore visuelle et une métaphore somatique. C'est-à-dire un geste. D'accord? Les autres personnes vont recopier. Et ce qui va permettre, entre autres, de faire travailler les neurones miroirs des individus. Donc j'ai ça en tête. Et en fait, une métaphore somatique extrêmement puissante, parce que quand on parle du monde de l'idéation, c'est souvent très perché. Et les mots, quand on descend au niveau du verbal, les mots sont hyper réducteurs. D'accord ? Donc dès qu'on a, ça dépend du vocabulaire des gens. Et donc si on passe entre autres par un canal somatique, ça va être quelque chose de beaucoup plus puissant, analogique, comme on dit, hein, donc pas logique, mais qui en termes de communication, ça permet de transmettre pas mal de choses, que ce soit en recherche d'innovation, choses comme ça, quoi.
Voilà. Oui, puis j'imagine que, en tout cas, moi, j'ai déjà ressenti en condition de facilitation de groupe, parce que au final, mon approche, c'est une approche de designer à la base, donc c'est vraiment de la résolution de problématiques, c'est vraiment plutôt analytique, rationnel, même de l'idéation, on va passer avec des outils, de représentation graphique, on va, voilà, il y a plein, tout ça. Mais vraiment avec la casquette de facilitation, quand je travaille notamment en design sprint, où c'est sur 5 jours, à partir du deuxième jour, je vois vraiment la couche d'information en fait qui transite entre les individus, mais qui n'est pas de l'ordre du langage parlé. Au final, ils sont en train de faire un atelier, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de structurer des choses, mais c'est la manière dont ils le disent, c'est l'intention avec laquelle ils portent un sujet, c'est au bout d'un moment même la manière dont ils se regardent, dont ils se comportent dans les temps off les uns avec les autres, que là, il y a une vraie information en fait qui circule entre eux, qui est pas de l'ordre du parler ou du raisonner, mais j'ai l'impression que justement c'est quelque chose qui vient infuser en eux et qu'ensuite après eux peuvent infuser quand ils retournent dans l'organisation. Et c'est un petit peu ça que j'essaie de chercher de plus en plus maintenant, au-delà du travail plus rationnel et rassurant et de la commande et du livrable, c'est d'avoir vraiment cette résonance qui se passe dans le groupe, parce que j'imagine que quand après ils retournent dans l'organisation, quand ils vont parler de l'expérience qu'ils ont vécue, même s'ils parlent juste de ce qu'ils ont produit, l'intention avec laquelle ils vont communiquer ça va créer en fait un peu, comme tu disais, cette espèce de transmission de quelque chose qui vient de rentrer dans l'eau et qui vient de potentiellement la changer un petit peu, la nettoyer, quoi. Je sais pas si... Tu vois,
c'est également qui ils sont. C'est que les gens, ils vont rayonner quelque chose dans leur leadership naturel et dans leur charisme. Le charisme, ça vient du cœur. Qu'est-ce qui va? Quel espace ils vont créer autour d'eux pour communiquer, tu vois? Ils vont communiquer une ambiance aussi. Donc, ils vont bien au-delà des mots. Et ça, on l'utilise d'une manière systématique, toi. C'est organisé. Et toi, tu parles d'un sprint de 5 jours. En assurance collective systémique, il y a de fortes chances que tu puisses réduire ça entre 1 à 2 jours. Pour arriver au même type de résultat.
Si on arrive vraiment à créer un bon contexte et c'est ultra efficace, on peut arriver en une journée à mettre les gens dans ce type de ressenti.
Oui, on est sur une permaculture intégrale. Toi. Dans la permaculture, c'est que chaque plante influence les autres dans un rayon autour d'elle. Là, en systémique 2.0, c'est chaque individu influence tous les autres en même temps. Donc, il y a une interpénétration de qui sont les gens, de leur façon de penser, de leur façon d'être. Enfin, il y a plein de trucs qui se mélangent et les connexions sont intégrales entre tout le monde. Hein. Et donc, comme on travaille sur les trois intelligences, qu'on travaille sur des modes de synergie, des modes d'émergence, ça va hyper vite. Ça va hyper vite.
Et une question, je crois que je t'avais posée aussi rapidement sur LinkedIn quand on échangeait, mais notamment liée à la spirale dynamique. Ouais. Le type d'approche dont tu parles là ne peut s'appliquer qu'avec une organisation qui a déjà les prédispositions à être prête à ça. Non, je me doutais du nom derrière et du justement, mais vas-y, je te laisse développer.
Justement, non. Parce que en amont, dans Systémique 2.0, on fait travailler les gens en mode flow. C'est-à-dire qu'on les fait sortir de leur mindset, qui donne leur niveau de la spirale. Donc même des gens qui seraient pur bleu, genre administration. D'ailleurs, je pense à mon intervention en mars ou en avril sur une administration, sur un appel d'offres qu'on a gagné, et on va avoir ce mode de fonctionnement-là, quel que soit le niveau. La grande clé, c'est de permettre aux gens d'arrêter leur machine mentale. C'est le hamster qui tourne dans la tête, la petite voix de la tête. Et une des clés, c'est de faire arrêter ça. Parce que c'est dans notre petite machine mentale, voix dans la tête, qu'on a les jugements, qu'on a les limites, qu'on a les croyances qui limitent les choses. D'ailleurs, toute croyance limite forcément. Donc, si on veut accéder dans le champ du possible et sortir de nos pensées, sortir de nos structures mentales, on a besoin, en arrêtant la machine mentale, c'est la courroie de transmission. Donc, on est en train de penser totalement différemment une fois qu'on a arrêté la machine mentale, plutôt que quand elle tourne.
Et ce qui me vient de ce que tu dis là, c'est, tu vois, il y a de plus en plus de projets qui sont vraiment des projets qui ont à vocation de travailler à l'échelle du territoire. Moi, je le vois sur Lyon, et puis je travaille aussi avec des gens qui sont dans le sud de la France. Et du coup, pour travailler vraiment sur le territoire, sur la transition écologique ou énergétique ou alimentaire, il y a nécessité de mettre autour de la table des gens qui sont dans du privé, des gens qui sont dans l'institutionnel, des gens qui sont dans des associations, enfin voilà. Et du coup, ce qui me plaît bien dans ce que tu exprimes là sur le fait qu'il n'y a pas forcément de prédisposition à avoir pour faire cette approche systémique 2.0, c'est que on va en effet pouvoir mettre ces gens ensemble et on va pouvoir réussir à les mettre dans un état de flow duquel tu parles pour qu'ils puissent beaucoup plus facilement coopérer, contrairement à des processus habituels où justement là on a une grosse rupture parce que souvent l'institutionnel c'est du bleu et du coup c'est éloigné de 10 ans par rapport à du privé. Le privé du coup c'est éloigné de très loin par rapport à des associations d'accompagnants qui sont déjà dans la spirale dynamique. Et du coup tous ces gens-là au final parlent pas le même langage, ils n'arrivent pas à se comprendre et on n'arrive à rien faire. Au final ça tourne en rond on en revient au final à faire des plateformes numériques en disant que la plateforme va pouvoir solutionner les problèmes de relations. Et du coup, voilà, ce qui me vient, c'est si c'est possible, du coup, d'arriver à les faire, à les mettre en flow ensemble pour qu'ils arrivent à coopérer, ça veut dire quoi pour toi de les mettre dans un état de flow? Parce que ces profils-là, souvent, ils sont dans un processus où on va leur dire, ben, on va travailler à des problématiques du territoire. Mais si on leur demande de, enfin, si on veut les sortir du rationnel, qu'est-ce qu'il faut ensemble au final s'ils sont en interaction avec toi pendant un temps de travail?
Ben, c'est le système qui décide. Hein. Moi, je sais pas. Moi, je suis, comme je dis, en tant que facilitateur, je suis au service du système. Et c'est lui qui me guide d'ailleurs. Ça m'est arrivé des fois d'avoir prévu un cheminement. Et puis le système me fait échanger deux éléments dans l'ordre chronologique. Et sur le moment, je sais pas pourquoi, mais mon deal avec lui, c'est que je suis à son service. Donc s'il me donne l'information, c'est que ça a un sens. Et j'ai compris beaucoup plus tard, en fin d'après-midi, pourquoi il m'avait fait changer de deux étapes et échanger toi. Donc je suis vraiment en mode, c'est une de mes formations aussi en coach professionnel, c'est un, je ne sais pas, et deux, je ne fais pas, c'est le système qui sait, le système qui fait. Et moi, je suis vraiment, comme en coaching professionnel, je suis au service du système, toi, qui est le client. Et donc, l'idée, c'est d'écouter ce qu'il me dit, sur un mode intuitif, d'ailleurs. Et tu parlais d'administration. Il y a eu un appel d'offres de la métropole de Lyon récemment, auquel on a répondu. Et avec les collègues, on a eu la meilleure note. Ils voulaient des choses un peu avant-gardistes, parce que chez eux, ils ont faire un forum ouvert. Je veux dire, ça fait 40 ans que ça existe. Tout le monde sait faire quasiment. Hein. World Café, tout ça. Il y a plus notre systémique 2.0. Là, ça les intéressait. Donc, on avait la meilleure note technique des gens. Par contre, il y a un cabinet qui fait généralement de l'audit financier et comptable qui était quasiment moitié moins cher que nous. Et c'est lui qui a eu le truc. Hein. Donc, ça, des fois, tu te dis un peu. Bon, alors ils vont peut-être embaucher ou des stagiaires, je ne sais pas qui vont faire, ou ils ont un bureau sur Lyon qu'ils ont besoin de faire tourner, tu vois, donc avec des frais fixes comme ça. Mais quand tu vois que cette boîte-là, tu regardes leur fonctionnement, c'est de l'audit comptable et financier, tu vois. Donc c'est ni la facilitation ni le coaching. Toi, je veux dire, qu'est-ce que les gens ils viennent foutre dans ce secteur-là, toi, tu te dis. Et en plus, avec des prix, toi, ils étaient à, je crois, 650 euros la journée, toi, c'était. Tu te dis, bon, c'est
du coup, si on, j'imagine un scénario, hein, juste pour imaginer un petit peu de ce que j'ai compris de ton approche. Mais par exemple, il y a un appel d'offres. Du coup, l'appel d'offres, quelque part, c'est une demande du système, formalisée par une personne, mais c'est une demande du système. Et du coup, j'imagine que la démarche commence à ce moment-là à se dire. Est-ce qu'on arrive à comprendre vraiment ce que le système me demande à travers cet appel d'offres? Et est-ce que je suis capable, du coup, de pouvoir lui appliquer la réponse attendue pour pouvoir le décrocher, on va dire? Et après, peu importe ce que le système demande, je ne sais pas, par exemple, retravailler les méthodes de travail, retravailler la logistique territoriale, enfin, peu importe. Du coup, on se met en disposition de se dire « Ok, on est capable de vous accompagner quelle que soit la demande que vous formulez. » Et du coup, dans ce contexte-là, on va créer des temps d'échange entre les différentes parties prenantes et on va venir poser des questions et on va venir travailler justement l'émergence dans le groupe pour que le groupe trouve lui-même ses propres solutions qu'ensuite vont eux-mêmes implémenter, qui va faire émerger d'autres demandes qu'on ne va pas remettre en question. On va juste prendre et dire « Ok, on refait un groupe de travail là-dessus, c'est eux qui vont trouver. » Donc du coup, on est vraiment pour moi sur une forme d'aboutissement de la facilitation qui est de vraiment… Voilà, mais de ne rien injecter dedans. Tu vois, moi, j'ai mes biais de designer qui sont de dire « Bon, bah voilà, j'ai travaillé sur X autres types de systèmes, je sais qu'il y a des choses qui fonctionnent, je peux venir vous les apporter, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des trucs comme ça. » Mais du coup, forcément, il y a des outils.
Ça marche pas sur l'autre.
Ouais, bien sûr.
Ça, c'est les biais. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une posture de facilitateur qui est un peu comme coach professionnel. Je ne sais pas. Et ultimement, je veux pas savoir. Je veux pas. Parce que sinon, j'aurais tendance, même inconsciemment, à diriger vers une solution que je pense être la bonne. Mais qui suis moi pour dire à un système qu'est-ce qui est bon pour lui?
Ouais, c'est ça.
Et système. Ça, il y a 50 ans, 100 ans, c'est Orange qui a créé le consulting. C'est-à-dire que j'étudie un système à quatre vitesses, une organisation qui fonctionne. Je regarde ses comportements, je regarde ses procédures, je benchmark, je modélise et après je recopie. Ça marchait il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Mode Orange, consulting. Là, dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, ce qui est vrai d'ailleurs pour une organisation peut très bien ne plus être vrai dans 6 mois. Là, la semaine dernière, je travaillais justement sur ce travail dans une start-up, enfin, il y a déjà 10 ans maintenant, qui font du développement logiciel. Donc, j'étais avec un peu le directeur technique. Le gars, effectivement, il a compris que ce qui est vrai maintenant, peut-être dans 6 mois, c'est plus vrai. Et donc, en fonction de la culture d'entreprise et de l'eau et de l'aquarium, chaque système est différent, comme chaque être humain qui est un système est différent aussi. Donc, on a besoin de faire du coût humain pour chacun. Et le truc qui marche pour tout le monde, hein, le one size fits all, c'est terminé. Ça, c'est du bleu et notamment une partie un peu orange. Mais là, maintenant, comme les choses bougent, déjà pour un système, ce qui est vrai ou ce qui marche, ce qui marche à l'instant T, peut-être un an, 2 ans, ils seront obligés complètement de tout changer. Et trouver une autre solution parce que ça marche plus. Surtout post-Covid, post-Ukraine, post-augmentation de l'énergie, tout ce qu'on veut, hein, inflation. Ça. Il y a d'autres postes qui vont arriver, hein, d'autres chocs, d'autres qui vont arriver et qui vont rendre obsolètes tous les modèles de fonctionnement. Avant le Covid, des gens qui faisaient du télétravail, ils avaient un certain nombre, mais là, ça a explosé en nombre d'heures, quoi. Bon, on ne peut pas télétravailler à tous les postes, mais il y a des choses qui ont vraiment bougé, quoi. Et peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, même le télétravail, ça sera peut-être plus adapté. J'en sais rien, parce que là, c'est vraiment l'inconnu, quoi.
Mais ce que tu me partages depuis tout à l'heure, ça me fait penser à une personne que j'ai rencontrée à Paris il y a 2 semaines. Et du coup, forcément, il écrivait un bouquin dans lequel j'ai écrit 4 pages. Donc, c'était cool de se rencontrer pour partager. Et lui, du coup, forcément, on faisait les présentations parce qu'on s'est jamais vraiment vu de physique, quoi. Et forcément, bah, moi, je lui dis, bah, toi, t'es dans quel... C'était un bouquin sur design. Donc, du coup, je lui dis, bah, toi, t'es dans quelle approche? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà. Et lui, du coup, était assez proche de... Enfin, il est passé aussi par du coaching systémique et par des approches qui sont très proches de celles que tu me partages là. Et lui me disait, bah en fait, moi, je me définis pas en fait. Je suis en interaction. Lui, en fait, il avait une stratégie de changer d'entreprise tous les ans ou les ans et demi parce que lui, ça l'amuse de rentrer dans un système et puis de voir ce qu'il peut y faire et ensuite après de sortir. Donc en fait, du coup, il rentre et du coup, il se met en interaction avec les gens. Il se crée à peu près son poste par rapport à des questions qu'il pose et ce que le système lui dit qui serait utile. Donc, au final, ça crée son poste. Il fait ce qui lui semble intéressant et important pour le système. Puis après, au bout d'un moment, en fait, quand il est plus vraiment nécessaire ou qu'il s'en place à la place, il sort et puis il va sur un autre système. Et je trouvais que c'était... moi, ça me faisait me questionner, en fait, sur la posture, en fait, qu'on a en tant qu'accompagnant vis-à-vis, justement, des systèmes. Parce que quand on a... quand on a envie, quand on est appelé à participer, à essayer de nettoyer l'eau pour que l'eau elle soit plus propre, parce que si jamais l'eau d'une entreprise elle est plus propre, alors l'eau de l'autre entreprise à côté sera potentiellement plus propre et ainsi de suite sur tout le système global, j'imagine. On a envie de se connecter sur ces systèmes et du coup, à un moment donné, va falloir qu'on dit ce qu'on est ou ce qu'on fait, ou du coup, tu vois, jouer ton point de vue là-dessus. Ou au bout d'un moment, on dit plus rien, toi, tu dis juste, je suis Jacques et je me mets à discuter avec quelqu'un d'une entreprise, et puis par rebond de discussion et par rebond de demande potentielle, je me retrouve à rentrer plus en interaction avec le système et puis à travailler sur les alignements de l'organisation. Enfin, comment ça chemine
Non, les systèmes s'expriment à travers les individus, hein, parce que le système, contrairement à l'être humain, il n'a pas... un organe vocal, il peut pas parler, d'accord. Donc éventuellement lui parler, c'est assez simple. L'entendre, c'est un peu plus compliqué. Donc, le canal d'entrée, si tu discutes avec une personne, tu discutes avec la personne. T'es pas en train de nourrir le système. Ou un tout petit peu, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de d'être déjà en collectif pour que ça marche. Et ensuite, s'il est tout seul, la puissance d'un collectif, c'est sa diversité. Plus c'est divers, plus il est puissant, cognitivement parlant, hein, par des gens, des jeunes, des moins jeunes, des gens de différentes cultures, des hommes, des femmes, tout ce que tu veux. Sauf que la différence, c'est, on dit toujours, ce qui se ressemble s'assemble. Donc la différence, c'est une force centrifuge. Donc un des gros travaux, si tu veux un système puissant et très divers, il faut, et c'est toute la technique aussi en systémique de zéro, c'est de créer des forces centripètes qui maintiennent, qui créent de l'homéostasie, hein, c'est ce que fait l'homéostasie dans notre système, dans notre corps. Hein, si tu vas de là où t'es, tu vas à un rendez-vous à 2 km, il n'y a pas le foie ou le cœur qui dit « moi, j'ai pas envie de venir avec toi, je reste dans mon coin ». Quoi. C'est ton homéostasie, ton système physique, tu emmènes tous tes membres avec lui, tu vois. Et donc, parler à une personne, c'est pas travailler sur le système, tu vois. C'est travailler avec une personne. Et même d'un point de vue systémique, si un manager fonctionne mal, qu'il est toxique, dans les visions vertes ou oranges, on dit « ah bah faut voir avec le manager, faut lui faire du coaching, la formation, ainsi de suite ». Alors que sur un point de vue systémique, bah, si un manager dysfonctionne, il est toxique ou ainsi de suite, c'est un symptôme du système. Mmh. Donc ça veut dire que le système a besoin d'évoluer. D'accord ? Alors si c'est vraiment très très toxique, il faut éventuellement intervenir quand même au niveau de la personne. Mais d'abord… Et on est sur une vision globale, tu vois, c'est le système qui a besoin de bouger. Mais toi, même en agence collectée, post-it et choses comme ça avec gommettes, c'est quelque chose typiquement humain. Ça n'existe pas dans la nature. C'est pas du biomimétisme. Quand on fait de la systémique de zéro, c'est du biomimétisme. Regarde, imagine que ce soir tu veux y aller au restaurant. T'es pas en train de créer, tu mets pas tous tes organes et tous tes membres en cercle. T'es pas en train de créer un forum ouvert avec des post-it à chacun et des gommettes pour savoir, bon, les petits loups, ce soir, vous voulez qu'on aille manger où? Alors, le foie qui dit, ouais, moi, je veux bien un steak frites, puis le cœur qui dit, non, je veux une salade, ainsi de suite, et puis, t'es en train de faciliter tout ça. Non, c'est toi, en tant que système grand S, conscient et intelligent, qui décide d'aller manger tel type de restaurant. Tu vas manger, et donc, il y a un sous-système de ton sous-système, donc, ton sous-système, ton corps, a un sous-système qui s'appelle le système digestif, qui va faire son boulot quand tu vas manger et qui va faire en sorte que tous les organes et toutes les cellules de tous les organes, ils ont ce qu'ils ont besoin. Mais tu ne t'occupes pas, c'est toi qui décides. Je vais manger un steak frites salade, je vais manger une salade, je vais manger chinois, japonais, un des trucs. Tu vois. Et de la nature, la nature fonctionne en systémique 2.0. C'est l'être humain qui a commencé à faire un truc analytique et puis je collecte l'intelligence de chacun. Mon intelligence, je mets le résultat de mon intelligence sur un post-it et je vais le coller. Puis après, on fait divergence, convergence, puis ça fait le W. Alors, tout le monde est ébahi devant ça, mais ça n'existe pas dans la nature. Alors qu'en 2.0, tu fais pas un coup trop loin, tu arrives directement au but. C'est pour ça que ça va aussi beaucoup plus vite. Mmh. Hein? Et il n'y a pas de discussion. Moi, je travaille aussi, j'étais deux jours en entreprise la semaine dernière et samedi dimanche, j'ai donné des coups de main sur des gens un peu sur des nouveaux modes démocratiques. Puis à un moment, avec ce groupe-là, il y a des gens qui voulaient faire des débats. J'ai dit, écoutez, là, ici, nous, on est en mode projet. L'idée, c'est de faire des projets qui marchent. Si vous voulez débattre, vous allez créer un cercle débat et vous nous fichez la paix. Vous allez débattre. D'accord? Donc, il ne s'agit surtout pas de débattre. Éventuellement échanger, mais mieux, c'est on nourrit le système. Si on a une information à donner, on la donne. Mais on ne donne pas quelque chose qui contredit ce que dit quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Non, on nourrit le système, tu vois. Donc, c'est un fonctionnement très particulier, c'est zéro débat.
Et si le système, si les gens avec lesquels tu es en interaction avec le système te demandent de travailler sur du débat? Est-ce que du coup c'est le système qui te demande de faire ça et que,
il y a plein de gens qui savent organiser des débats, hein, c'est pas moi.
Ok. Oui, donc il y a quand même des choses, il y a quand même certaines demandes du système que toi tu vas pas adresser.
C'est une demande du système avec un petit S, c'est pas la demande du système avec un grand S.
Comment t'arrives à détecter quand c'est des demandes du système avec un petit S et avec un grand S?
Des systèmes émancipés, il y en a très très peu, quasiment pas. Donc toutes les demandes qui viennent, c'est le petit S qui demande. C'est l'organisation, c'est la structure, ça vient des DRH, ça vient des gens qui sont là. Alors en filigrane, il y a peut-être, moi ce qui m'a surpris dans les dernières élections, surtout pas présidentielles, les législatives, c'est que le système Grand Est français est en train de, je ne sais pas s'il se réveille ou pas, mais en gros, c'est comme si on avait une proportionnelle, tu vois, dans le rendu au niveau de l'Assemblée nationale. On est vraiment en scrutin majoritaire, donc on a un système petit S qui est très, très biaisé, volontairement, ainsi de suite. Et en fait, le système Grand Est en arrière-plan a quand même fait en sorte que c'est comme si on avait fait de la proportionnelle en représentation dans le truc, toi. Et donc, pour moi, c'est dans mon éclairage hein, de systémicien de dire bah, c'est le système avec un Grand S qui a tiré les ficelles, toi. Et c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans ce que développe un peu, sans le savoir, j'ai plus son nom, c'est un nom très compliqué, quelqu'un qui écrit un livre, La sagesse des foules.
Ouais. Ah oui, oui. J'ai pas son nom non plus de tête, mais je vois.
Ouais, Jirodowski, enfin c'est un truc assez d'origine polonaise, je pense, d'après la consonance. Et en fait, ce qui sort de ce livre, c'est qu'en fait, si tu veux faire de l'intelligence du collectif, il y a que deux façons. Soit 100% des gens comprennent clairement les tenants, les aboutissants et ont tout en main, sans qu'on cherche à les manipuler. Donc ça, c'est pas gagné, parce que les partis politisés. Soit les gens n'y connaissent rien et votent au pif. Et à ce moment-là, comme ils votent au pif, le système, statistiquement, il passe à travers eux. Et à ce moment-là, c'est le système qui vote.
Enfin, ah, je vois. Un peu comme les jeux où, du coup, on doit deviner c'est qui m'a parlé ça la dernière fois, on doit deviner le poids d'un cochon ou le poids d'une vache. Et puis, il y a plein de gens qui donnent. Bah, et dans le monde,
il donne l'exemple d'un médecin du 18e siècle, qui à l'époque, ils étaient un peu plus scientifiques que maintenant, les médecins. Et, il arrivait dans la banlieue de Londres où il y avait une foire aux bestiaux. Puis, il y avait un concours avec un bœuf et il fallait noter sur un bout de papier quel était le poids de la viande du bœuf une fois qu'il était tué, écarri et désossé. Et bon, il y a quelqu'un qui a gagné, qui était le plus proche. Et le gars, il a eu l'idée de prendre des feuilles. Et je crois qu'il a fait, alors je ne sais plus si c'est la moyenne ou la médiane, et à 500 grammes près, c'était ça.
Ouais, c'est ça.
Même chose, hein, dans les années, il y a eu une navette à un moment qui a explosé en vol, tu sais, une navette spatiale. Et je ne sais plus si c'est Challenger, ainsi de suite. Et dans la foulée, il y a les cours des bourses des trois principaux fournisseurs de la navette qui ont perdu 15%. Le lendemain, il y en a deux des trois qui ont repris leur cours et il y en a un qui restait à moins 15%. On a connu le responsable que 15 jours après, hein, le temps que les ingénieurs fassent ça. Et celui qui avait resté à moins 15%, c'est celui qui avait fourni, entre autres, les joints qui avaient fuité, qui avaient fait le truc. Donc, le système savait. T'sais. On dit souvent, les choses sont dans l'air du temps.
Ouais.
Un peu ça. Donc, l'information du système, elle est disponible. Donc, quand on y va sans rien connaître, au pif, à l'intuition, comme on dit, bah, individuellement, on peut être faux, mais dans la loi des grands nombres, statistiquement, la main invisible du système, donc je veux pas la main invisible du marché, quoi, la main invisible du système se voit par là. Mais il faut vraiment que les gens y connaissent rien. Ils y aillent, voilà. Et là, le système, ça marche, à grande S.
Ouais. Et la dernière question que j'aurais, justement, pour que ça soit un point pragmatique, c'est... Comment tu fais pour entrer en interaction avec les systèmes avec un grand S? Ça me questionne vraiment ce point-là, tu vois, parce que vu que l'idée c'est pas de créer des moyens rationnels de connexion avec les petits systèmes avec un petit S. Comment est-ce que tu restes juste en écoute et puis à un moment donné il y a des informations ou des choses qui arrivent et c'est ce qu'on peut appeler des sortes d'opportunités d'information et tu te connectes dessus et tu interagis, comment ça se passe?
Il y a de l'émergence, mais au départ, une fois que tu es en mode flow, en collectif, bah, c'est l'attention qui définit où on se connecte. Où est-ce qu'on prend l'information? C'est l'intention qui définit l'attention qui définit l'énergie. Donc, tout dépend de l'intention.
Donc toi, tu travailles en collectif et vous arrivez à avoir à connaître l'intention de votre système avec un grand S.
Et, oui, on a l'intention de se connecter à un système. C'est-à-dire que, imagine une grosse entreprise multinationale, tu peux décider de te connecter à l'ensemble de l'entreprise, tu peux décider de te connecter à une business unit, ou tu peux te connecter même à une équipe dans une business unit.
Ouais.
C'est ton voltmètre ou ta sonde pour mesurer l'eau, dans quelle partie de l'eau tu vas. Ça se fait, c'est uniquement l'intention qui définit où on va chercher l'information.
Et toi ou vous savez, enfin vous vous savez avec quel système, avec un grenier, vous avez envie de travailler. À un moment donné, il y a quelque chose qui émerge qui dit, tiens, on a envie de travailler avec telle entreprise et avec tel service de l'entreprise. C'est... Parce que j'ai l'impression, je te demande, parce que j'ai l'impression qu'avec ce, qu'avec l'approche que vous portez, enfin, tous les systèmes avec un grand S en auraient besoin et donc du coup, il y aurait possibilité de travailler avec tous les systèmes. Qu'est-ce qui fait que du coup, on arrive à choisir les systèmes de travailler?
Ben là, on n'est pas dans l'autre sens. On peut choisir ou pas, mais là, le souci, c'est que, je sais plus qui disait, ça peut être une erreur d'être trop en avance. Donc, on est plutôt assez avant-gardiste. Donc, même l'approche systémique en 1.0 est encore pas très demandée, ainsi de suite, quoi. Donc, moi, quand je vois les, après, j'ai des trucs, des choses en gré à gré, mais quand on répond à des appels d'offres, c'est plutôt des choses standards. Donc, après, la méthode qu'on donne est celle-là. Mais les demandes, et tu connais ça aussi, la différence entre les demandes et les besoins.
Oui, bien sûr.
Mais le canal d'entrée, c'est la demande des petits systèmes qui ont une problématique à résoudre. Donc, par exemple, moi, j'ai des gens que j'ai formés avant, quand ils faisaient le travail de vision, raison d'être, valeur, mission, ils prenaient sur l'entreprise 5 jours, et là, ils le font 2 jours maintenant. Donc, je leur ai dit, d'ailleurs, ils augmentent les tarifs parce que déjà, ça coûte moins cher à l'entreprise. Il faut pas que tous les bénéfices aillent aux clients, c'est qu'ils en trouvent aussi des bénéfices. Mais les gens sont mobilisés que 2 jours au lieu de 5. Donc, au niveau de l'entreprise, c'est aussi une différence qui fait la différence, quoi.
Et on a besoin. Coup, voilà, on a besoin quand même de pouvoir créer des objets qui permettent de venir se connecter sur les systèmes avec un petit S. Pour ensuite, après, quand on est en interaction, pouvoir convertir ça en travail directement avec le système avec un grand S, d'une certaine manière.
Je comprends vraiment ce que tu viens de dire. Un objet, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu entends par objet ? J'ai eu en formation un méta-designer qui parlait d'objet intermédiaire, donc je commence à connaître un peu le langage.
C'est plus simple. Non, l'objet, c'est plus de se dire que si par exemple je suis directeur transpo d'un grand groupe, je vais avoir des responsabilités par rapport à certaines choses à mettre en place. Et donc, du coup, forcément, si je sens que je peux pas le faire moi tout seul ou qu'on peut pas le faire de l'interne, eh ben, je vais aller chercher à l'extérieur. Et pour qu'il puisse trouver ce qu'il cherche, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permette de se connecter dessus. Donc, que ce soit des démarches de com, de marketing, peu importe, de réseau ou je sais quoi. Mais il y a besoin quand même de jouer avec ce langage-là pour pouvoir se connecter sur cette personne et ensuite faire un travail de système 2.0 avec lui.
Oui, bah, il y a d'abord besoin du savoir faire savoir, quoi. Faut d'abord que les gens ils sachent que ça existe.
Oui.
D'accord. Première chose. Ensuite, en intervention, j'ai une préférence aller du global au détail. C'est-à-dire que l'idée, c'est une transfo globale, ça commence par le système total. Et ensuite, on descend au sous-système. Tu vois. Mais d'abord, idéalement, on peut commencer par un sous-système ou une équipe, n'importe quoi. Mais l'idéal, c'est si tu veux faire une transfo, voire une transmutation, parce que la transformation, comme je dis, ça transforme la forme. C'est souvent l'extérieur. La transmutation, on a besoin de transformer également l'intérieur. Ça commence par une transformation culturelle.
Oui, tu avais une question d'ailleurs sur laquelle tu as rebondi d'une autre designeuse sur LinkedIn qui posait la question de la différence entre changement et transformation. Et du coup, toi, tu as ajouté aussi la différence avec transmutation.
Oui, c'est ça. En fait, il y a changement type 1, type 2, type 3. On peut changer quelque chose, voilà. Ensuite, on peut transformer. On va au-delà de la forme. On prend une nouvelle forme. Et puis après, il y a la transmutation, c'est quand on change la forme, y compris l'intérieur.
C'est là où tu changes l'eau, ouais.
D'accord. Et là, c'est un changement de type 3 qui se fait qu'à ce moment-là, que le système change par lui-même, tu vois. Dans le changement type 1 et type 2, ça demande toujours beaucoup d'efforts. Parce que tu vas à l'encontre, déjà, un changement dans le système, donc tu veux forcer les choses. Alors souvent, on utilise les TI pour ça, hein, les systèmes informatiques, pour obliger les gens à passer par des fourches codines. Même un changement type 2, c'est un changement du système. Là, il y a l'homéostasie qui va freiner, parce que le système, il a pas forcément envie de changer, comme les êtres humains. Si tu veux forcer un système à changer, il va pas être d'accord. Donc pour le moment, par définition, là où il est bien. Et son homéostasie fait ça. Alors qu'un changement de type 3, comme c'est lui qui veut changer, il va utiliser l'homéostasie pour emmener les poissons. Quand tu bouges l'aquarium, bah, les poissons, ils résistent pas. Ils bougent tous ensemble. Alors que si tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, il va tousser, pote. Donc ça, c'est une approche justement qui fait un changement de type 3, qui est initié par le système lui-même. L'homéostasie du système, ça va plus être quelque chose qui va empêcher le changement, mais qui va faciliter le changement, et tu vas te retrouver avec quasiment plus de résistance. Donc ça va aller plus vite, quasiment sans résistance, plus facilement, en fluidité, presque en douceur, toi. Parce que c'est le système qui a décidé de changer, et que toi, tu l'accompagnes, et comme il est intelligent et sage, surtout par rapport à son environnement, il va évoluer dans le sens où il va mieux s'adapter à son environnement. Hein? Son intelligence du système à grand S étant supérieure à la somme des intelligences des membres qui le composent. Et en intelligence collectée, post-it, tu ne fais que sommer les intelligences, et encore, tu n'en prends qu'une partie, c'est que quand il y a plein d'idées, ben, on les regroupe, puis après on vote pour quelle idée, puis les autres, on les laisse tomber. Hein? Alors que là, en intelligence collective systémique, c'est le système qui choisit, et ce qui est intéressant par expérience, c'est que tu te retrouves plus avec, même si les gens sont pas pour, ils sont plus vraiment contre. Tu vois, c'est-à-dire qu'en sociocratie, tu évites les gens qui sont activement contre, mais tu peux avoir des gens qui sont contre. Là, quand c'est le système qui décide, les gens, ils acceptent, ouais, moi, j'aurais pas fait ça, mais c'est néanmoins OK. Donc, au pire, je suis neutre. Je suis pas
hyper. Il n'y a rien qui est en structure.
Je suis pas contre. Ni activement contre. Toi. La sociocratie, ça empêche déjà d'être activement contre, mais tu as des gens qui peuvent être, je suis pas d'accord. Là, quasiment, tu te retrouves avec des gens, c'est pas ce que j'aurais pris, c'est pas mal, c'est pas mon truc, mais les gens se retrouvent au niveau neutre. Et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus efficace et efficient pour le système. Toi.
Mais en tout cas, tu vois, si j'essaie de te partager un peu une synthèse de notre échange, que ça crée comme résonance chez moi, c'est. Si on arrive à voir nos systèmes humains comme étant vraiment des systèmes naturels, au final, on est connecté. On est dans la même forme d'intelligence ou de sagesse que le végétal, le minéral ou l'animal. Et du coup, notre responsabilité entre guillemets, c'est d'arriver à libérer à faire circuler cette intelligence-là plutôt que d'essayer de continuer à croire qu'on est responsable de notre propre système humain et humanité. Et au contraire, du coup, on le ralentit, on le bride et on l'empêche de faire ce qu'il a à faire de lui-même, quoi. Donc, c'est un peu une épreuve de foi dans notre humanité et dans notre système humain, quoi. Pour les grands sujets du moment, donc, le côté le sujet d'arriver à se réintégrer dans le vivant, au final, on y est déjà intégré dedans. C'est juste que nous-mêmes, en fait, on s'empêche de pouvoir vivre pleinement cette intégration, j'ai l'impression.
Et des fois, quand il y a des trucs en anglais sur le systémique, entre autres, il y a un groupe qui s'appelle SI, tu sais, ils sont des fois beaucoup sur l'intelligence 1.0, 1.5. Je dis le système, c'est « he », c'est « lui », et c'est pas « it ». Tu vois, c'est, quand t'es it, c'est un objet, c'est mécaniste, le système est vivant, c'est une entité vivante. Comme un bébé, effectivement, qu'on a besoin d'émanciper et de le nourrir, tu vois. Et là, c'est un changement de paradigme totalement différent de ce qu'on a à voir, quoi. Et c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement puissant. Et c'est tellement agréable, parce que ça se fait, tout seul, non, le mot est un peu fort, mais ça se fait naturellement dans la fluidité, tu vois, les choses évoluent, tu vois, et on est loin des changements de transformation qui se font après, des gens qui résistent, et après on fait intervenir des coachs pour faire lâcher prise aux gens qui résistent, tu vois, en leur expliquant je sais pas trop quoi, mais c'est pas très écologique sur le point de vue, tu vois. Alors que quand ça bouge tout seul, c'est vraiment écologique au sens grand E, c'est personne, ni quoi que ce soit, ne pâtit de quoi que ce soit. Et ça adresse en fait la grandeur de l'être humain. Parce qu'on sort des petits trucs égotiques, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais ça ne m'arrange pas, bidule, bon, so what, quoi.
Et puis on se reconnecte avec un mode de fonctionnement qui en plus marche à toutes les échelles, quoi. Le côté d'arriver universal. À être à l'écoute de soi, ouais. pour arriver à évoluer. En même temps, ça fait pareil dans le groupe, ça fait pareil à l'échelle des groupes, ça fait pareil à l'échelle sociétale, quoi. C'est le même.
On est vraiment sur une hiérarchie imbriquée qui grandit, l'individu en tant que système, et après l'équipe en tant que système, business unit, ou même une région, une ville, et tout s'imbrique et grossit, et tout est interconnecté, en fait.
Une belle fractale.
Ah, non, justement, j'attends. Non, Olarchi, je t'en, parce que, pour moi, la fractale, attention, c'est, conceptuellement, dans la fractale, c'est les mêmes règles à tous les niveaux.
Ouais.
Or, ça n'existe pas dans la vie. Les règles au niveau subatomique ne sont pas les mêmes qu'aux règles atomiques, qu'au niveau moléculaire, qu'au niveau. Toi, les règles changent. Même en physique,
alors,
en chimie.
Du coup, ça serait la même impression que cette espèce de fractale sans fin, mais avec des choses qui sont différentes tout le temps.
Oui, le mot, c'est une holarchie. C'est des tours composés.
Ok.
Tu vois? Et l'ASD est une holarchie, la spirale dynamique. Mais les règles dans bleu sont pas les mêmes que vert, mais bleu est pourtant intégré, transcendé dans le suivant. Et donc le problème du fractal, c'est je comprends que visuellement, sauf que dans le concept, le truc de fractal, c'est que les règles à tous les niveaux sont les mêmes. C'est qu'une répétition de la même règle. Mmh. Ce qui est pas le
c'est
cas.
C'est une simplification de la réalité de la vie, quoi.
Je pense, oui, mais tu as des fractales dans certains endroits. Le chou romanesco, d'un point de vue géométrique, c'est un fractal. Mais au niveau chimique et même physique, le chou, tu as des molécules qui sont pas du tout la même chose qu'un atome de carbone et un molécule qui compose de chou sont différents, n'ont pas les mêmes règles. Tu vois et un proton dans un atome n'a pas les mêmes règles qu'un électron ou qu'un neutron, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est holarchi et pas fractal, justement.
Et pour finir, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont envie de venir un peu se connecter sur la systémie 2.0, est-ce que toi, tu pratiques et que tu expérimentes, ils peuvent commencer par quoi?
Je comprends pas le sens de ta question, là.
Ben, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont du coup basculer de leur intérêt de la systémie vers la systémie 2.0. Comment est-ce qu'ils peuvent se mettre dans l'expérience et comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça?
Ben là, vivre, c'est soit tu es dans un endroit où moi ou des gens que j'ai formés interviennent, ou de se former, quoi. Parce qu'après, c'est vrai qu'on fait blablabla, c'est toujours assez, ça reste malgré tout conceptuel, et c'est quand tu le vis, c'est waouh! Ça, c'est là où ça voit que ça dépote. Là, je vais redémarrer des webinaires puisqu'on a la sixième promo va démarrer fin avril de formation. Voilà, sur 6-7 mois. Donc, il y a des webinaires que j'organise régulièrement pour où on présente un peu l'approche, hein, mais l'expérimenter, c'est un moment. Soit ça vous parle, ça te parle, ok, j'y vais. Et je mets les mains dans le cambouis ou ça me parle pas, à ce moment-là, il n'y a pas de souci.
Et pour ceux qui seraient intéressés par, je partagerai les liens pour, quand tu auras les liens pour le webinaire, pour ceux qui s'intéressent. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et pratiquer, du coup, quand vous pratiquez avec sur des entreprises, sur des organisations.
Oui, des entreprises, des associations, voilà. Donc, il y a des interventions, moi, j'ai déjà fait sur des grosses administrations, tu vois, par exemple, au niveau de certaines DSI, des choses comme ça. Là, on va le faire, c'est officiel, puisqu'on a un contrat au niveau de l'agglo de Bordeaux, par exemple. On a un peu l'agglo de Lyon, mais la métropole de Bordeaux. Donc, il y a des choses qu'on va faire, même au niveau formation avec les managers, déjà. Commencer à les introduire, un mode de flow, parce que ça augmente. Moi, je dis toujours, en référence à Star Wars, maîtriser la force, devenez des managers Jedi, maîtriser la force, donc travail en flow, être en ouverture, être résilient, être connecté à soi et aux autres, et être efficient. Et efficient, c'est hyper écologique, c'est comment j'obtiens des résultats avec les moindres ressources. Et les ressources, c'est du temps, de l'argent, des personnes, des engueulades, du stress, du burn-out, du bore-out, tout ça, tout ce qui coûte, voilà, c'est des ressources, quoi. Donc l'idée, c'est, j'appelle distinction grosse feignasse, comment on arrive à produire du livrable qui est utile et qui fait une différence pour le client et pour les systèmes, les différents systèmes, avec le moins de ressources possible. Ce qui est hyper écologique d'ailleurs.
Et en plus, c'est le système avec un grand S qui te permet d'avoir ça. Trop bien. Bah, écoute, merci Jacques pour l'échange. C'était très cool d'échanger en vrai plutôt que par petit message interposé.
Ouais, puis c'est forcément, dès que c'est du verbal, c'est hyper réduit. On n'a pas le non-verbal, on n'a pas le paraverbal, on n'a pas le visage. Enfin bon, c'est la transmission d'informations, c'est pas de la communication. Là, on a fait effectivement de la communication.
Un peu mieux.
Ouais. Je pense qu'on intérêt.
La prochaine fois, ça sera encore mieux. En vrai.
Ok. Super, Fabrice.
Merci, c'était
bon
cool.
Bon après-midi, merci de ton intérêt et puis bonne continuation. Prends soin de toi. À bientôt de nouvelles aventures.
Elle marche. Dans le système avec
les différents systèmes. Voilà.